France Culture.
Lorsqu'on annonce que la Cour des comptes va publier son rapport, on tremble un peu, ça et là, dans certaines administrations. Cette année, il n'y a vraiment pas grand-chose à redire. Jean-Pierre Kitard a tout de même épluché pour nous le rapport de la Cour des comptes.
Des stations de sport d'hiver qui coûtent trop cher aux collectivités locales, des universitaires qui ne travaillent pas assez.
TF1. 1978.
Des contraventions que personne ne veut payer. Deux hôpitaux de la région parisienne qui pratiquent des prises à la journée dignes d'un hôtel 4 étoiles. Et enfin, une conserverie en Corse installée puis détruite à grands frais. Voilà quelques-uns des petits scandales révélés cette année par le rapport de la Cour des comptes, édition 1978, un rapport de 150 pages. Pourtant, les amateurs de sensationnel seront déçus. La Cour n'a pas levé cette année de gros liefs comme le scandale des abattoirs de la Villette, par exemple. Plus simplement, la Cour, et elle le dit...
Les gardiens du droit, une série documentaire de Cyril Marchand et Véronique Samuilov.
Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui à la Cour des comptes, au Palais Camblon, plus précisément, qui est le siège de la juridiction depuis 1912.
Épisode 4, juger la dépense publique, la Cour des comptes.
Il faut commencer par cette cour d'honneur, en fait, parce qu'elle donne à voir finalement toute la disposition des lieux.
Pierre Morillo, responsable du pôle archives de la Cour des comptes.
La Cour des comptes est une juridiction, ça veut dire une institution à deux têtes, avec d'une part le procureur général qui assure la direction générale de la Cour et la programmation, et d'autre part le ministère public, la procureure générale, qui elle représente les intérêts de la société comme dans toute juridiction et a le monopole des poursuites dans les travaux de contrôle de la Cour des comptes. Et cette symétrie, on la voit de manière architecturale, de part et d'autre du porche. Au nord, premier étage, nous avons le bureau du premier président, et au sud, le parquet. Et il faut voir que les bureaux de la procureure générale et du parquet se trouvent immédiatement en dessous du deuxième niveau, qui est l'étage noble architectural. La symbolique est forte, puisque finalement, ils sont subordonnés à la justice des comptes, qui est matérialisée par ce deuxième étage, dans lequel se trouve la grande chambre, qui est le Saint des Saints, en fait, dans la juridiction.
On ignore souvent que la Cour des comptes est une juridiction. Célèbre pour ses fameux rapports évaluant la dépense publique, la Cour est ce qu'on appelle une juridiction administrative spécialisée. Elle juge ceux qui font usage de l'argent public. Mais comme toute institution pluricentenaire, son rôle a largement évolué. Ses missions juridiques sont marginales à côté de l'expertise budgétaire, l'écriture de rapports et la certification des comptes publics. Double mission ne signifiant pas double langage, l'institution est devenue indispensable au débat public et veille désormais à répondre aux attentes citoyennes sur la transparence de la dépense publique.
Alors, par effet de symétrie que j'évoquais dans le bâtiment, on a la même symétrie sur les modèles de voitures. Voilà. Donc nous avons la voiture du premier président et la voiture de la procureure générale. Je serais bien incapable de distinguer laquelle appartient au premier et à la procureure générale.
Il y en a une parmi les deux qui se distingue parce qu'elle a un gyrophare dessus, donc il y a sans doute une priorité doute, pour passer plus vite. Et à l'intérieur, on aperçoit aussi des sortes de macarons.
On a le macaron bleu, blanc, rouge qui marque la voiture du premier président.
On l'a trouvé du coup.
Effectivement.
Est-ce que la Cour des comptes est une juridiction ?
Alors, il est vrai qu'on opère une distinction entre les compétences juridictionnelles et non juridictionnelles de la Cour.
Stéphanie Damaré, professeur de droit public.
Les compétences non juridictionnelles, j'ai envie de dire, c'est ce que le citoyen connaît le mieux de la Cour des comptes, puisque ce sont ces fameux rapports qui sont rendus à l'année, rapports sur lesquels elle a enquêté, elle formule des observations, des recommandations. C'est probablement comme ça que le citoyen connaît la Cour des comptes. La Cour a également des compétences juridictionnelles, c'est-à-dire que c'est un juge. Elle est saisie. Elle va rendre des décisions de justice et elle va trancher des litiges. Voilà, ça symbolise totalement cette activité juridictionnelle et donc cette compétence de juge.
Et oui, nous jugeons depuis l'origine. En vérité, longtemps, ce fut la fonction essentielle de la Cour des comptes. Nous sommes des magistrats, nous prêtons serment, nous portons la robe, les présidents de chambre et le premier président portent l'hermine. Cet après-midi même, je serai dans une audience solennelle, revêtue de ce costume historique, que certains peuvent estimer désuet, mais qui est tout simplement le symbole d'une magistrature. Nous l'étions et nous le sommes. Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes actuellement.
Alors, nous sommes au pied de l'escalier d'honneur. C'est de part et d'autre de cet escalier que se tient la garde républicaine lors des audiences solennelles de rentrée. Alors, je suis désolé, la garde républicaine n'est pas là pour vous accueillir.
Je pense que dans l'esprit du commun des mortels, on le voit bien pendant les journées du patrimoine, par exemple, c'est pas la chose la plus évidente. Et quand ils viennent et qu'ils nous voient, par exemple, en robe, parce qu'il y a une tenue de magistrat, ou qu'ils découvrent la fonction d'avocat général, qui est un peu mystérieuse, qu'ils nous disent « Mais attendez, je comprends pas, les avocats, qu'est-ce que ça veut dire ?» En fait, on est les avocats de la partie publique, de l'intérêt général.
Adeline Baldacchino, conseillère référendaire à la Cour des comptes.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins visible à l'extérieur, pour une raison, je pense, assez simple, qui est une raison d'ordre technique. C'est-à-dire qu'à la fois, parce que la Cour des comptes, elle a jugé jusqu'à récemment des comptables uniquement, bon, finalement, la plupart des gens qui travaillent dans le secteur public ne sont pas des comptables. Ça représente qu'un nombre très limité de personnes qui étaient susceptibles vraiment d'être jugées au titre de la fonction juridictionnelle de la Cour. Et puis aussi parce qu'elle s'intéresse quand même à des infractions qui, il faut bien le dire, sont de nature assez technique. C'est une dizaine d'infractions aujourd'hui, le Code des juridictions financières. Et ces infractions, elles ne sont pas faciles à expliquer ou à raconter. En fait, oui, elles recouvrent quoi ? Elles recouvrent essentiellement une violation des règles d'exécution de la dépense ou même des recettes publiques. Mais quand on rentre dans le détail, ça peut devenir vite plus compliqué, d'où, je pense, ce défaut de visibilité de la partie juridictionnelle.
Alors ben nous sommes en train de gravir la deuxième volée de l'escalier d'honneur qui mène au hall de l'étage des servants, la grande chambre et toutes les chambres de délibérés.
Pierre Morillo.
Le regard est immédiatement attiré vers le plafond. Ce plafond qui est une fresque d'Henri Gervex et qui symbolise la justice des comptes précisément. La justice des comptes, c'est cette dame qui est juchée sur son nuage et qui tient de son bras droit un balancier et qui se voit remettre en bas à droite un manuscrit par le premier président de l'époque de la construction du Palais Cambon, le président Hérault, le tout étant consigné en bas à gauche par la muse de l'histoire qui est juchée sur son nuage, Clio. Et juste en dessous du premier président, nous pouvons apercevoir une chouette. Une chouette qui symbolise le regard perçant de la Cour des comptes sur tout un périmètre de compétences qui est représenté par les trumeaux des portes et fenêtres. Donc, au-dessus de la statue de gauche, vous voyez deux angelots qui encadrent en fait un fagot de blé qui forme comme un tipi. Ça, c'est pour représenter l'agriculture. Et oui, la Cour des comptes contrôle le ministère de l'Agriculture. Ensuite, nous avons un caducé qui peut être soit symbole de médecine, soit symbole de commerce, avec les autres symboles...
Ce qui est important, c'est que le citoyen comprenne et sache que quand il y a des infractions au Code des juridictions financières, autrement dit, quand il y a eu des...
Véronique Amaillon,
des infractions
procureur général.
Sur le maniement des deniers publics, eh bien, on a possibilité de poursuivre et de sanctionner les gestionnaires coupables.
Peut contrôler le ministère.
Et ça, c'est important pour l'ordre public financier et pour l'état de droit. C'est une manière de contribuer aussi au respect de l'état de droit. Les irrégularités, les infractions qui sont commises sur des deniers publics, c'est-à-dire sur notre argent à tous, sur l'argent du contribuable, ne restent pas impunis. Il y a des sanctions. Alors, quand il y a des faits pénalement répréhensibles, c'est le juge pénal qui s'en charge. Et qui a un arsenal beaucoup plus large que le nôtre, nous prononçons des amendes. Enfin, la Chambre du contentieux prononce des amendes, donc des sanctions financières. Il n'y a que celles-là que nous pouvons prononcer, et c'est très bien comme ça. Mais c'est important que le citoyen ait cette conscience-là, parce qu'encore une fois, ça fait partie de l'état de droit.
C'est inscrit dans la Constitution, c'est inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Stéphanie Damaret.
C'est un devoir pour ceux qui ont à leur disposition ces fonds publics que de rendre des comptes et de s'en justifier. Il est normal de gérer. Alors, je n'aime pas du tout la formule, elle est arriérée désuète, donc en bon père ou en bonne mère de famille, ces fonds publics qui sont mis à leur disposition. Donc, le rôle du juge financier, c'est celui-là.
Au départ, la Cour des comptes, elle était là pour juger les comptables publics, et uniquement les comptables publics.
Bernard de Froment, avocat.
Parce que, en France, il y a un principe cardinal de finances publiques qui est le principe de la séparation de l'ordonnateur et du comptable.
Pour faire sortir de l'argent de la caisse publique, il faut forcément une décision prise par un ordonnateur, celui qui, au sein de l'administration, a un pouvoir de décision, exemple un maire, et le comptable public qui est seul autorisé à manier la caisse publique. Et donc, à partir du moment où une décision de dépense a été prise par un ordonnateur, en fin de schéma, on arrive devant le comptable public et c'est lui qui ouvre la caisse publique et qui paye la dépense.
Le principe, c'est d'éviter que l'ordonnateur puisse s'en mettre plein les poches ou que le comptable puisse aussi, lui, décider de la somme qu'il va payer ou prélever sur le contribuable. Donc, c'est un principe, je dirais, cardinal.
Alors, le précédent régime de responsabilité financière qui était appliqué aux ordonnateurs et aux comptables publics conduisait à distinguer, en fait, deux juges financiers. La Cour des comptes et les chambres régionales et territoriales des comptes pour juger les comptes des comptables publics. Et d'autre part, la Cour de discipline budgétaire et financière qui avait été créée en 1948 et qui avait compétence à l'égard, alors plus largement des administrateurs, mais en particulier des ordonnateurs. La problématique concernant ces deux régimes de responsabilité financière, c'est qu'ils ne livraient pas de satisfaction. S'agissant de la Cour de discipline budgétaire et financière, elle ne rendait que peu de décisions à l'année. Entre 1948 et sa disparition au 31 décembre 2022, elle avait rendu 264 décisions. Donc, bon an, mal an, ça nous faisait à peu près 4 décisions rendues en moyenne à l'année. Ça, c'était un premier problème. On avait un autre souci. S'agissant du jugement des comptes des comptables publics, eh bien, trop souvent, le ministre passait derrière le juge financier pour prononcer une remise gracieuse de responsabilité. Dans un état de droit, c'est un peu problématique, puisqu'on ne s'attend pas à ce qu'une autorité administrative puisse remettre en cause une décision de justice.
Imaginons que la Cour des comptes condamne un comptable.
Pierre Moscovici.
Sur ses comptes.
Premier président.
Elle lui donne une amende, eh bien le ministre des Finances pouvait décider ce qu'on appelait une remise gracieuse, donc il ne paye pas, ou bien une assurance, ce qui veut dire qu'en réalité ce régime représentait financièrement peu d'intérêt et qu'il n'était finalement pas menaçant, autrement bien sûr que pour l'honneur et la réputation, ce qui n'est pas rien d'un comptable, et donc il était finalement assez peu efficace.
Surtout, peut-être relevé que en Europe, la France était le seul État à disposer d'un tel schéma faisant intervenir le ministre et permettant, en l'occurrence, effectivement, la remise en cause d'une décision de justice.
Et donc, nous avons réussi à négocier un nouveau régime de responsabilité unique des gestionnaires publics qui permet à la Cour des comptes, aujourd'hui, de juger beaucoup plus efficacement à la fois les comptables et les ordonnateurs sur des fautes identifiées et avec des sanctions réelles.
Alors, nous arrivons dans une superbe galerie, la galerie Philippe Séguin, qui dessert les principales salles du palais, destinées à la mise en scène du savoir. Donc c'est déjà ces ouvrages patrimoniaux qui sont exposés de part et d'autre.
Il y a des murs de livres autour de nous, des livres anciens qui montent jusqu'au plafond, avec un escalier en colimaçon qui permet de rejoindre cet étage-là.
Donc ici, nous avons plus de 3000 ouvrages qui sont exposés, qui vont du XVIe siècle jusqu'au XIXe siècle.
Alors donc, si je parcours la rangée des livres, ici je peux trouver un livre sur les études d'un système général de défense contre les torrents. Bon, un ouvrage de la Direction Générale des Forêts sur le reboisement des montagnes. Un peu plus loin, on peut même trouver les mémoires d'un ministre du Trésor Public en 3 volumes. pourra aussi trouver une somme sur les emprunts et les impôts de la rançon de 1871. Loi de finances, 1899. Loi de finances, 1889. Traité des obligations et de la responsabilité des comptables publics en 6 volumes.
Donc, je suis en particulier l'avocat du département de l'Eure pour différents contentieux. Et un jour, je reçois un coup de fil de mon interlocuteur du service juridique du département qui me dit « Maître, est-ce que vous accepteriez de défendre monsieur qui maintenant est retraité et qui, en 2018, était directeur adjoint des finances et qui fait l'objet d'une procédure devant la Cour des comptes suite à l'erreur qu'il a faite, etc. Et je l'ai accompagné pendant toute la procédure devant la Cour des comptes.
Contribution à une théorie réaliste de la répartition. Le recouvrement du droit des pauvres. Ou tout simplement les impôts en France.
Dans l'affaire département de l'Eure, on est sur une affaire d'escroquerie dont a été victime ce département. On est dans un système bien particulier d'affacturage qui permet à des établissements financiers de se substituer à des entreprises. Ça permet à ces entreprises de gérer un petit peu de manière plus maniable, souple, leur trésorerie. Et vous aviez un établissement financier qui est venu présenter des factures, donc en vue de leur paiement. On était en pleine période estivale. Le directeur des affaires financières était en vacances. Le responsable comptable en titre était également en vacances. C'était donc leurs adjoints qui étaient sur le pont, si je puis dire, et à qui on a présenté effectivement ces factures, qui ont accepté de les payer. Le montant du litige, c'est quand même à peu près 800 000 euros de factures qui ont été payées. Or, il y avait des indices, il y avait des signaux qui auraient dû les alerter.
Il est retraité, il est chez lui.
Bernard de Froment.
Il va à la pêche, ou il joue aux boules, ou il se dépense dans des organisations caritatives. Bon, il est passé à autre chose et on lui dit « Écoutez, monsieur, vous avez commis une faute dans votre exercice professionnel en 2018. La Cour des comptes vous poursuit et... vous risquez 6 mois de remboursement de traitement. Bon, donc il était un peu désemparé. Et moi j'ai essayé de le rassurer et puis de le défendre le mieux possible.
L'administration financière, Bercy, avait tiré la sonnette d'alarme et en interne avait averti les comptables de ce risque d'escroquerie, puisqu'ils n'étaient pas les premiers à en être la victime.
À son niveau, il aurait pu détecter, la fraude. Si ce n'est que, lui, il se retrouvait au bout de la chaîne de l'ordonnancement de la dépense. En amont, il y a 5 ou 6 personnes qui ont vu passer la dépense et qui n'ont rien trouvé à dire. Eh ben, c'est lui qui prend pour tous les autres. Il les couvre, en quelque sorte. Il a une responsabilité, globale. On va pas aller chercher les autres qui ont commis la faute avant lui.
Il y avait plusieurs points qui auraient dû attirer l'attention, notamment le fait que l'établissement financier qui se présentait était un établissement portugais. Ce n'est pas classique, ce n'est pas habituel. S'étonner qu'ils n'aient pas leurs interlocuteurs habituels.
Alors, quels étaient les moyens que j'ai développés pour obtenir... le fait qu'il soit blanchi complètement, c'est de dire que, essentiellement, la somme qui a été soustraite frauduleusement au département de l'Eure, elle est certes en soi importante, 791 000 euros, mais que ce montant doit être apprécié en fonction du budget total du département de l'Eure. Et là, si on rapportait 791 000 euros Au total du budget du département, c'est-à-dire 667 millions, moi je disais, ça fait 0,11%, donc c'est pas significatif. C'est pas l'analyse qui a été faite par la Cour des comptes qui a estimé que c'était significatif.
Qu'est-ce qu'une faute grave rattachée à un préjudice financier significatif? Comment on évalue cette significativité? Lorsqu'on fait le rapport, ne serait-ce qu'avec le budget du département, on est sur une significativité qui est calculée à hauteur de 0,12% de mémoire. Est-ce qu'un préjudice financier peut être considéré comme étant significatif à 0,12%? En valeur relative, ben justement, c'est relatif. Mais en valeur absolue, on est quand même sur un montant de 800 000 euros. Donc la Cour des comptes, et je pense que sur ce point, il faut la saluer, la Cour des comptes a bien fait de s'engager sur ce sujet-là et de considérer que la significativité pouvait également s'apprécier, non pas uniquement en relativité, mais de manière absolue.
Je ne sais pas si on peut ouvrir la fenêtre. Allons, ouvrons la fenêtre, voilà, pour améliorer le point de vue sur la tour Chicago. Désolé pour le froid, mais bon, il fallait quand même pouvoir l'admirer de visu. Donc il faut imaginer enserrer dans le palais Cambon une tour en béton armé pour répondre à un besoin pragmatique qui, à l'origine, était le stockage des archives. C'était 400 000 liasses à stocker, 2 millions de kilogrammes d'archives. Il a donc fallu construire en hauteur. Et c'est pour cela que Moyau va s'inspirer de ce qui se faisait outre-Atlantique, notamment à Chicago. Et donc, il va faire édifier cette tour en béton armé qui a le mérite d'être résistant à la charge et à l'incendie. Donc, cette tour, jusqu'en 2008, était garnie d'archives des pieds jusqu'à la tête, du moins deux jusqu'au 9e étage. Voilà, donc 12 niveaux entièrement, c'est une armoire géante, pour ainsi dire. Depuis, cette tour a été complètement reconfigurée. On est passé à un archivage numérique pour les comptes.
Et effectivement, avec ces briques et ces courbes, ça fait vraiment penser à une tour qu'on pourrait imaginer à Chicago.
Et c'est le grand paradoxe, c'est qu'elle est invisible, alors que c'est l'un des éléments, je pense, les plus intéressants de ce site Cambon.
Moi, je me souviens très bien, au tout début des années 80, en tous les cas.
Jacques Rigaudière, ancien conseiller maître à la Cour des comptes.
Les couloirs de la Cour étaient envahis de liasses comptables poussiéreuses qui débordaient de partout, puisque le bâtiment Chicago était alors encore un lieu d'archives des liasses, et d'autant plus submergé que les chambres régionales n'existaient pas. C'est-à-dire que les 400 magistrats, en gros, dont 200 effectivement en fonction, devaient juger les comptes des communes, des hôpitaux. Enfin, toutes les institutions publiques envoyaient leurs comptes à la Cour. Évidemment, la tâche était plus que surhumaine et le contrôle effectif était quand même relativement limité. On faisait des sondages tous les 10 ans ou quelque chose comme ça pour qu'il y ait un minimum de suivi dans les institutions. Et de ce point de vue-là, la création des chambres régionales a beaucoup modifié les choses. Donc la Cour, la rue Cambon, les sages de la rue Cambon n'ont plus que le national, ce qui est déjà pas mal. Mais enfin, c'est plus du tout la même masse.
Petit à petit, la Cour des comptes a diversifié, modernisé ses activités. Elle est devenue un contrôleur.
Pierre Moscovici.
Alors d'abord, un contrôleur des organismes, c'est ce qu'on appelle le contrôle organique. Ce contrôle s'est étendu à l'État, toute la sphère publique, à la sécurité sociale. Et le contrôle de l'État comme de la sécurité sociale se fait ici, à la Cour des comptes, rue Cambon, à partir d'ici. Et au cours de ces contrôles, nous pouvons découvrir des problèmes de régularité, ou de sincérité, ou de comportement, qui, à ce moment-là, justifie et même exige une approche juridictionnelle. Donc, il n'y a pas contradiction entre la fonction de contrôle et la fonction juridictionnelle. Il y a complémentarité.
Les équipes de rapporteurs, lorsqu'elles font un contrôle, d'une part, ne se place pas dans une position surplombante.
Adeline Baldacchino.
Il y a vraiment une sorte de culture du contrôle à la cour qui n'est pas celle du commando. On n'arrive pas en disant fermez les portes, ouvrez les coffres, coupez les lignes téléphoniques, montrez-nous ce qu'il y a, attention parce que ça va être saignant. Pas du tout. La Cour des comptes, elle est plutôt, et je crois de plus en plus, dans une posture d'accompagnement, voire de conseil. Et ça lui permet quand même, globalement, de ne pas être trop déconnecté, justement, des réalités du terrain.
Nous ne sommes pas un corps d'inspection. Nous ne dépendons de personne. Et le premier mot qui nous caractérise, c'est l'indépendance. Nous sommes une magistrature. Nous ne sommes pas une administration. Ça, on ne le comprend pas toujours. Même les ministres ne le comprennent pas toujours. Certains seraient tentés de nous confier des missions sur ceci ou sur cela. Et l'indépendance passe aussi par le fait que notre programmation, c'est nous qui la fixons et qu'elle est secrète de surcroît. Secrète, bien sûr, quand on lance un contrôle, la première chose qu'on fait, c'est qu'on informe le contrôlé. Mais disons, on ne sait pas par avance qu'on va être contrôlé. Ça, c'est absolument cardinal. C'est clé. Et c'est le fondement de notre existence, c'est cette indépendance de définition de notre travail et aussi indépendance de jugement. Alors j'ai souhaité réformer très profondément la Cour des comptes. D'abord, notre programmation, elle est ouverte maintenant. Elle est ouverte à des citoyens. Il y a une plateforme citoyenne. Tous les ans, pendant un mois, qui nous propose par exemple 950 thèmes de contrôle, nous en retenons une dizaine, ce qui veut dire que c'est 5% de notre programmation. Nous avons à peu près 180 rapports par an, dont une dizaine sont d'initiatives citoyennes. S'agissant du juridictionnel ou du futur juridictionnel, il y a aussi une plateforme de signalement qui est exploitée par le parquet général où il y a une centaine de signalements par mois qui sont traités d'une façon ou d'une autre. C'est au fond laisser leur place aux lanceurs d'alerte.
Liste des thèmes proposés par la consultation citoyenne 2024. Centre Val-de-Loire, la gestion de l'eau potable. Nouvelle-Aquitaine, le syndicat intercommunal pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés. Pays de la Loire, la gestion de la restauration collective par les collectivités territoriales. Polynésie française, les aides apportées durant la pandémie. Le coût budgétaire des énergies renouvelables dans le cadre du contrôle des charges de services publics de l'énergie. L'évaluation de la politique d'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu du travail. La vente des médicaments à l'unité, source éventuelle d'économie. Le soutien de l'État à l'économie sociale et solidaire. Les fraudes aux retraites versées à l'étranger. Occitanie, les soutiens publics à la corrida.
Mon expérience personnelle, quand je suis arrivée il y a une quinzaine d'années à la Cour, a été vraiment organisée autour de l'idée que quand on commençait un contrôle, il fallait rencontrer le plus de gens possible de la base au sommet et pas du tout aller s'adresser exclusivement au directeur financier, au chef d'équipe, etc. Au contraire, j'ai envie de dire, parce que très souvent, les bonnes idées et les meilleures recommandations que l'on puisse faire sur un sujet sur lequel on ne détient pas nécessairement une expertise. A priori, nous, on a l'expertise du contrôle, mais pas l'expertise de la matière qu'on contrôle. Eh bien, les bonnes recommandations, elles viennent des gens qui travaillent dans le secteur depuis très longtemps, mais qui ne sont pas toujours en position d'être entendus et de voir leurs suggestions relayées au bon niveau d'intervention presque politique, j'allais dire. Et c'est en passant une heure enfermée dans une salle avec quelqu'un qui n'est pas un niveau très élevé dans la hiérarchie d'un établissement public, que vous allez très souvent récupérer les informations les plus intéressantes et vous rendre compte qu'il y a des choses à faire remonter, à mettre en valeur et à pousser qui pourront être en fait utiles.
Les travaux de
Jacques Rigaudia
de contrôle de gestion étaient extrêmement intéressants parce que vous allez dans un organisme, le CNES, JAT Industrie, SNCF, RATP, un service administratif quelconque. J'étais responsable des programmes d'armement, donc je dis JAT Industrie, le service technique de l'armée de terre, l'école de l'air à Salon de Provence. J'ai contrôlé les casinos, parce que ça dépend du ministère de l'Intérieur. Vous avez une mission de contrôle de la gestion. Donc vous avez un dialogue avec les gens, vous leur posez des questions. Il y a un travail là de chien truffier quelque part, hein, de juge d'instruction quelque part, d'enquêteur au fond.
Alors là, nous nous dirigeons vers une chambre de délibéré. Il me semble qu'une est disponible ce matin.
Alors, si j'ose dire le mauvais côté, le côté un peu plus négatif, si vous voulez, que quand vous êtes magistrat, vous aimez pouvoir condamner, vous juger. Sur des évaluations, des évaluations ou des contrôles de gestion, vous ne jugez pas. Hein, vous êtes un auditeur quelque part. Donc, vous ne mettez pas les gens en prison, vous ne leur demandez pas, vous ne les mettez pas en débat. Donc il y a quelque part une insatisfaction assez naturelle des magistrats à l'égard des choses qu'ils peuvent trouver. Il m'est arrivé de trouver des choses assez lourdes, représentant quelques milliards d'euros.
C'est là où les magistrats se réunissent pour statuer sur les différents rapports qui leur sont présentés. Donc il faut imaginer dans toutes les chambres de délibéré comme celle-ci, une grande table ovale autour de laquelle siègent les magistrats. Donc le rapporteur arrive, se tient à peu près au milieu de la salle, lui fait face le président de chambre ou la présidente de chambre, il expose son rapport. Ensuite, un contre-rapporteur qui a aussi travaillé sur le même sujet, en fait, lui donne une version contradictoire. Et première version, il y a ça un certain nombre d'indications qui sont données aux magistrats.
Qu'est-ce qui garantit l'impartialité du juge des comptes ?
Ensuite, le soumet une nouvelelfois au délibéré.
Comme toute impartialité, en réalité, il faut avoir en tête qu'il existe des biais politiques, des biais cognitifs, des manières de travailler. Ce qu'on peut et ce qu'on doit faire, c'est les limiter en donnant des garde-fous procéduraux. D'une part, le contradictoire, c'est-à-dire donner aux gens la possibilité de répondre par écrit à toute critique qu'on leur fait et répercuter cette critique. Elle est publiée, par exemple, les réponses des administrations sont publiées en annexe au rapport définitif. Mais aussi et surtout, j'insiste toujours énormément sur la collégialité. L'impartialité du juge, c'est en fait l'impartialité des juges. Ça ne peut être que l'impartialité des juges. Alors évidemment, il y a une conséquence possible aussi, comme dans toutes les organisations, ça vient atténuer parfois la portée, la dureté, le tranchant d'un message. Et il faut éviter qu'on aboutisse à de la langue de bois, parce que c'est évidemment ce qui menace toujours un message collectif, quel qu'il soit, un rapport collectif, c'est la langue de bois, c'est ne pas vouloir trop s'engager, c'est essayer d'avoir un langage trop balancé. Bon, mais cet équilibre-là, on est toujours à sa recherche. Donc voilà, on peut espérer être quand même le plus proche possible d'un message qui ne prétend pas à la vérité, mais au moins à faire un peu avancer l'action publique dans la bonne direction.
Une version définitive, du coup. Voilà, l'idée étant que le rapport soit soumis à différentes étapes de vérification, afin que l'observation de la Cour des comptes soit absolument indiscutable. Donc là, nous venons de traverser la galerie qui, en fait, atteint l'autre escalier d'honneur, l'escalier d'honneur du parquet général. En face, nous pouvons voir justement une tapisserie symbolisant la cour républicaine, où il faut imaginer un ensemble de magistrats qui sont groupés autour d'un chêne. Donc le chêne, c'est le chêne de la liberté, symbole de la République. C'est lointain aussi rappel du chêne de Saint-Louis, sous lequel le roi rendait justice. Ce qui est au cœur de cette tapisserie, c'est cet effet de masse en fait, de magistrats qui forment presque un bloc. Et ça, c'est pour symboliser l'une des vertus cardinales de la Cour des comptes dans ses travaux, c'est la collégialité. C'est le fait qu'un rapport n'est pas le fait d'un magistrat qui s'acharnerait contre une administration, mais qu'il a été revu par ses pairs, et qu'à l'issue de cette révision, c'est la voix de la Cour des comptes qui s'exprime.
Notre Constitution, réussi un équilibre excellent, alors que dans certains pays, on est rattaché, les institutions de supérieur de contrôle sont rattachées au Parlement, dans d'autres sont rattachées au gouvernement. Nous, on n'est rattaché ni à l'un ni à l'autre. On est indépendant.
Philippe Seguin, ancien premier président de la Cour des comptes.
Et cette indépendance, je le redis, 2007. Elle est la marque, l'illustration de notre capacité à servir. Si demain nous pouvons être soupçonnés de ne plus être indépendants, tout ce que nous faisons ne vaudra plus rien.
La Cour n'est pas un pouvoir. Nous sommes une juridiction, mais nous ne sommes pas un pouvoir juridictionnel. La Cour n'est pas un contre-pouvoir. Nous ne sommes ni au service du gouvernement, ni au service du Parlement. Plutôt, nous travaillons avec les uns et les autres. Nous rendons compte. Nous sommes au service du citoyen. Nous sommes là pour l'informer. Nous sommes une institution de la République. Mais cette institution est là pour informer le citoyen. C'est son rôle. Ensuite, c'est aux politiques de décider. Parfois, lors des journées européennes du patrimoine, je viens, comme ça, 2-3 heures, et je rencontre des gens. Et certains me disent « Ah, ben vous en faites trop, vous êtes des juges. » Non, on fait ce qui est proportionné. D'autres disent « Pourquoi est-ce qu'on ne suit pas toutes vos recommandations ?» Je leur réponds qu'on suit déjà 75% de recommandations, ce qui, somme toute, est pas mal. Puis, deuxièmement, je ne souhaiterais pas qu'on suive 100% de nos recommandations. Parce que ça voudrait dire que ce serait un gouvernement de juges ou d'experts. Je ne crois pas au gouvernement des juges et des experts. Ceux qui décident en démocratie, ce sont les citoyens, c'est le peuple. Mais les citoyens et le peuple peuvent être éclairés par des experts.
Si vous voulez, ce qui fait que la Cour des comptes est une institution désormais aussi centrale dans le débat public, c'est qu'elle a su agglomérer des soutiens extrêmement composites. Désormais, la Cour des comptes est une institution qui est capable de parler à un ensemble de destinataires qui est assez impressionnant d'ailleurs pour une institution.
Thomas Lépinet, professeur en sciences politiques.
La Cour des comptes, elle parle au gouvernement, c'est sa fonction première, mais elle parle aussi au Parlement. Et au sein du Parlement, elle parle à la Commission des finances en particulier. Et cette Commission des finances, vous savez, désormais le président de la Commission des finances, il est membre de l'opposition. Et donc elle parle aussi à l'opposition. Elle parle également aux journalistes, la presse économique, la presse généraliste, la presse politique, mais également les journaux d'opposition ou les journaux critiques du pouvoir. Ce qui fait que la Cour des comptes, au fur et à mesure du temps, eh bien, elle est parvenue à se constituer une série de publics qui peuvent la défendre en cas de coup dur. Ce qui fait que la Cour des comptes, progressivement, eh bien, est devenue une institution qui est capable de parler à la fois au gouvernement et à la fois au canard enchaîné.
Au fond, la meilleure des sanctions, je ne dis pas des condamnations, c'est quand même le fait que ce soit mis sur la table publique et que l'organisme concerné ou les personnes concernées soient amenées à devoir s'expliquer, notamment devant la presse, par exemple. Ça, c'est un gros changement, parce qu'avant, la publication des rapports était quand même très, très limitée. Et le rapport annuel faisait les choux gras du canard enchaîné pendant 2 ou 3 jours, mais c'était un bêtisier, quelque part. C'est pas suffisant comme publicité, si j'ose dire. Donc, de ce point de vue-là, la publication quasiment systématique des rapports, je trouve, est une excellente chose.
Alors, nous voyons un buste d'Hercule qui peut nous interpeller. Pourquoi cette référence mythologique qui soutient une voûte soutenue de l'autre côté par une tête de Déméter. La symbolique, c'est le travail. C'est le travail d'Hercule, les 12 travaux dont il doit s'acquitter. Et donc c'est le symbole d'un travail fructueux, avec le symbole de Déméter, qui est symbole de labour, symbole de travail. Donc finalement, il n'y a que ce travail du coup qui permet de s'élever vers l'étage suivant, qui est celui de la justice des comptes. Il n'y a que le travail et le mérite aussi qui peut fonder une société moderne.
Si je n'étais plus député, je redeviendrais conseiller référendaire à la Cour des comptes.
François Hollande, 1989.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je ne faisais absolument rien à la Cour des comptes, je continuerais à gagner 15 000 francs par mois, 25 000 si je faisais des rapports, mais sans forcément en faire énormément, je pourrais doser mon travail, rester chez moi quand je suis fatigué, aller à la Cour des comptes dans mon bureau pour passer des coups de téléphone. Bref, je serais totalement libre, je serais un vrai privilégié comme je l'étais avant d'être élu député.
Pour faut bien comprendre pourquoi la Cour des comptes sort de ce jugement des comptes qu'était sa mission première depuis le 19e siècle.
Thomas Lépiné.
Il faut comprendre ce qui se passe dans l'après-guerre. Dans l'après-guerre, on a un changement dans la population des magistrats des comptes. Les magistrats des comptes, cette fois-ci, sortent de l'ENA. Ils proviennent de l'École nationale d'administration et ce sont des hauts fonctionnaires. C'est un changement majeur au sein de la Cour des comptes parce que, auparavant, juste avant la guerre, eh bien, les magistrats de la Cour des comptes sont recrutés en tant que magistrats. Ils préparent le concours spécial à la Cour des comptes au sein de l'École libre des sciences politiques et ils sont formés en réalité par leurs futurs collègues, par des magistrats, et ils apprennent le métier en tant que magistrats. Au sortir de la guerre, eh bien, la Cour des comptes rejoint le panel des administrations auxquelles on peut accéder par le biais de l'ENA. Ces magistrats qui arrivent dans les années 50, 60, 70, qui sont issus de l'ENA, qui auraient pu très bien arriver à l'inspection des finances, au Conseil d'État, dans une autre administration, eh bien, ils trouvent que le travail interne à la Cour des comptes, il est particulièrement pénible. Parce qu'il faut dépouiller des liasses, hein, comme on dit au sein de la Cour des comptes. Il faut regarder dans des documents poussiéreux, regarder le travail qui a été fait par un comptable pour voir si ce comptable n'a pas fait d'erreur. C'est ça le travail de jugement des comptes.
Pour moi, jusqu'en 80, c'est les comptes, les comptables, la mise en débat des comptables, est-ce que les textes sont respectés, code des juridictions financières et tout ça. J'ai fait de la liasse, comme on dit à la cour. Bon, c'est un peu hard, hein, quand même. C'est pas rigolo tous les jours de se prendre comme ça des listings, regarder si le marché public a été saucissonné ou pas, bien aller au tir, si les règles ont été respectées d'appel d'offres, si les indemnités versées ont été en fonction de textes existants. Enfin bon, voilà. Le travail normal en juridictionnel, c'est un travail un petit peu ingrat, hein, à la fois lourd et ingrat.
Et donc, ces hauts fonctionnaires, eh bien, se sentent en décalage avec ce métier. Ils se sentent en décalage parce que eux, eh bien, leur aspiration professionnelle, elle est très simple, c'est de participer à la transformation de l'État. On est dans ces années où l'État se modernise, on est vraiment à un moment où beaucoup de choses changent dans l'État. Et donc, ils vont progressivement inventer un métier plus noble, qui consiste à construire, à élaborer des constats et des recommandations en ce qui concerne ce qui les intéresse le plus, c'est-à-dire la gestion des administrations, c'est-à-dire progressivement ensuite les choix des politiques publiques. Est-ce qu'un investissement qui a été proposé par une collectivité est judicieux? Est-ce que telle ou telle politique est bien menée? Est-ce qu'elle est efficace? Est-ce que des pistes ne pourraient pas être trouvées pour améliorer cette politique et pour répondre à des problèmes publics qu'ils identifient? Et donc, progressivement, eh bien, ce métier de jugement des comptes va être marginalisé. La tâche la plus noble, c'est celle du contrôle de la gestion. Et puis, très bientôt, hein, dans les années 80, ça va être celle d'évaluer les politiques publiques.
Il faut relire Bourdieu. La Cour, c'est la noblesse d'État. Hein, c'est l'inspection des finances, plus le Conseil d'État, plus la Cour. On sait bien quelle est la place, sociologiquement parlant et politiquement parlant, de la noblesse d'État dans la reproduction des mécanismes généraux de la société. Il n'y a pas non plus à s'en... On peut le regretter, c'est en partie mon cas, mais la Cour, notamment par son corps social, est un corps, on va dire, à tendance conformiste. Voilà. Et le conformisme aujourd'hui en matière financière, c'est d'appliquer les textes strictement tels qu'ils sont. Moi, je peux le regretter, je le regrette et je l'ai manifesté à bien des reprises, mais c'est quelque chose de normal. Que je sache la réalité financière de notre pays gouvernée par le traité de Maastricht et ses suites, que tout ça a été constitutionnalisé, donc il est parfaitement normal que la Cour vérifie que, pour faire simple, les critères de Maastricht, les 3% de déficit, les 60% de PIB qu'il ne faut pas dépasser pour la dette, soient respectés et disent des choses par rapport à ça. S'il y a une critique à faire, c'est pas à la Cour, c'est aux textes eux-mêmes qui ont été adoptés d'une façon ou d'une autre, sur laquelle on ne reviendra pas ici, mais c'est comme ça. Par ailleurs, l'insistance mise sur l'équilibre des finances publiques est une préoccupation post-maastrichtienne. La question de la dette ne se posait pas quand il y avait un circuit du trésor et que la dette était monétisée. Donc il n'y avait pratiquement pas de dette. La dette était au sous les 20%. Donc c'est la transformation des circuits financiers qui a été déterminante de ce point de vue-là. Et l'affirmation politique qui est dans les institutions européennes via le traité de Maastricht et ses successeurs.
La Cour peut donner l'impression aussi d'être la gardienne de la dépense publique, mais peut-être plus une gardienne d'une orthodoxie budgétaire.
Ah, de manière assez naturelle, nous sommes effectivement les gardiens des lois, des règlements, de l'organique sur la loi de finances, de l'équilibre des finances publiques. C'est notre mission. Ça, c'est certain que le jour où vous verrez la Cour des comptes préconiser de dépenser open bar, c'est qu'elle aura quand même un peu fermé la boutique sur ce qui est sa première mission. Mais j'ai tenu à faire en sorte que cette maison ne soit pas la tenante de l'austérité. Nous ne sommes pas des ennemis de la dépense publique. Nous préconisons d'ailleurs assez fréquemment d'en augmenter certaines. Je vais prendre un exemple sur les EHPAD. En France, on dépense évidemment pas assez. Il y a toute une série de dépenses publiques utiles qu'on pourrait augmenter, mais il y en a d'autres inutiles, inefficaces, qu'on devrait réduire beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et il faut mener cette réflexion d'ensemble sur la qualité de la dépense publique.
Alors, oui, vous aviez une question, excusez-moi.
Ici, vous évoquez un certain nombre de chambres. Il y en a combien de chambres à la Cour des comptes ?
Alors, il y a 6 chambres thématiques, plus une chambre chargée du contentieux, des procédures juridictionnelles. La première chambre, c'est l'économie, deuxième chambre environnement, troisième chambre culture, quatrième chambre, c'est le régalien, cinquième chambre, c'est tout ce qui est social, sixième chambre, c'est tout ce qui est santé. Plus après, donc là, c'est pour les audits de la Cour des comptes, qui n'ont pas de force contraignante, mais qui ont un énorme impact médiatique, en tout cas qu'elle suscite. Et sinon, après, donc il y a les procédures juridictionnelles concernant les gestionnaires d'argent public, les ordonnateurs et les comptables.
Et ça, c'est une septième chambre qui vient d'être créée.
Qui ne s'appelle pas septième chambre, qui s'appelle chambre du contentieux, mais effectivement, c'est une septième chambre.
La Cour des comptes, en dépit du fait qu'elle est une juridiction, n'a pas de pouvoir d'injonction et n'a pas le pouvoir de prononcer une astreinte.
Véronique Amaillon.
C'est fort dommage parce qu'on voit se multiplier les cas où des personnes privées, mais qui sont contrôlées par la Cour des comptes parce qu'elles reçoivent des subventions ou parce qu'elles sont financées par des fonds publics d'une manière ou d'une autre, refusent de communiquer des documents. Et ça n'est pas acceptable dans un état de droit. Ça n'est pas acceptable. Donc, je milite pour que la Cour, qui est une juridiction, soit dotée de ce pouvoir d'injonction et de ce pouvoir de prononcer des astreintes. Ça, c'est un premier point. Et le deuxième point, c'est que on a beaucoup plus de déférés qui nous viennent des chambres régionales des comptes que de déférés qui nous viennent des chambres de la Cour. Donc, on a beaucoup plus de déférés qui concernent des petites collectivités locales, quelquefois sont de grosses, mais c'est souvent de toutes petites collectivités locales, dont on s'aperçoit qu'une partie d'entre elles commet des infractions par méconnaissance de la réglementation applicable, plus que par volonté de commettre une irrégularité. Et de l'autre côté, on a de très grosses collectivités ou de très gros établissements publics ou des administrations de l'État qui connaissent beaucoup mieux la réglementation et pour lesquelles le processus décisionnel est tel, notamment du côté de l'État, il est très complexe, il est très long, qu'on a beaucoup de mal, nous, juridiction financière, à imputer une infraction à une personne déterminée, à Monsieur X ou à Madame Y. Et donc, on pourrait se retrouver dans ce cas de figure que je voudrais éviter, de petites collectivités systématiquement poursuivies, systématiquement condamnées, et de grandes administrations d'État qui échappent finalement à la sanction du juge.
Pourquoi la Cour des comptes ne juge-t-elle pas les élus ?
tout simplement parce que la loi ne le prévoit pas. Ça a été un combat d'un certain nombre de premiers présidents de la Cour que d'essayer d'élargir la compétence sur l'ensemble des justiciables. Mais à ce jour, les ministres et les élus locaux ne sont pas justiciables devant la Cour des comptes. Ça évoluera peut-être, c'est le souhait de certains. Moi, ça me paraîtrait, par exemple, à titre très personnel, évidemment cohérent et nécessaire. Mais c'est un sujet qui fait débat au niveau du Parlement.
Alors, j'ai envie de vous contrarier tout de suite et de vous dire, elle juge les élus. Les élus locaux, ce serait une erreur d'affirmer que la Cour des comptes n'a pas compétence à leur égard. Elle a compétence pour certaines des infractions. C'est-à-dire qu'il y a 10 infractions qui peuvent être poursuivies devant le juge financier. Et vous avez 4 infractions qui permettent de sanctionner un élu local. Pour la gestion de fête, on pourrait même aller rechercher la responsabilité d'un ministre. C'est le seul cas. La gestion de fête, c'est un dispositif qui est mis en place pour contourner le comptable public. On a eu des associations qui, sur la base des fonds qui étaient à leur disposition, ont payé des dépenses en lieu et place de la commune parce que le comptable avait opposé un refus de paiement au maire. Et le maire a trouvé pratique d'utiliser l'association pour finalement contourner le refus comptable. Ça, c'est typiquement une gestion de fête. On a déjà recherché la responsabilité d'un ministre. On n'a d'ailleurs qu'une seule condamnation à ce jour. C'est Christian Nucci qui, dans l'affaire Carrefour du Développement, avait vu sa responsabilité engagée par la Cour des comptes en tant que gestionnaire de fête. On a notamment reproché à Christian Nucci d'avoir fait verser des subventions à des associations et d'avoir obtenu, sur la base de ces fonds versés, le paiement notamment de frais de campagne, puisqu'il s'était lancé dans la campagne des législatives en 1986.
Alors, ce qui est exact, c'est que le législateur, en l'occurrence, c'est une ordonnance, n'a pas souhaité inclure les élus dans ce régime, considérant qu'il existait, pour ce qui les concernait, d'autres façons de les juger. Que ce soit au pénal ou au civil, et que par ailleurs, leur responsabilité était quand même assez lourde, y compris, et d'abord, devant leurs électeurs. Je ne vais pas juger de cela, c'est une décision du législateur. Je pense par ailleurs qu'il ne faut pas non plus tomber dans la critique systématique des élus dont les fonctions sont difficiles et dont l'immense majorité est désintéressée et honnête.
Poursuivons et dirigeons-nous vers le Saint-des-Saints, la Grande Chambre. Voilà, alors là nous voyons qu'une cérémonie est en cours de préparation, et pas n'importe laquelle, les audiences solennelles, qui sont les cérémonies marquant les différentes étapes de carrière des magistrats. C'est une pièce qui ressemble à une salle d'audience judiciaire. Alors oui, le regard est attiré vers cette grande porte, encadrée par deux anges qui symbolisent la justice et la loi. Entre eux se trouve la Marianne, symbole de la République, et qui surmonte l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui est un article fondamental pour la Cour des comptes. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration.
Donc, cette grande porte avec ce buste de Marianne et cet article de la Déclaration des droits de l'homme, on voit qu'ils sont situés juste derrière la formation avec les magistrats, et précisément même derrière le bureau du premier président. Ça veut dire que, visuellement, c'est signalé qu'il est en dessous de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.
Oui, il y a toujours, de toute manière, une symbolique de la verticalité dans ce bâtiment, effectivement. On est toujours subordonné à quelque chose qui nous dépasse, qui est un idéal, qui est effectivement le service du citoyen et, je dirais, la justice financière.
Évidemment, ce qu'on a tous en tête, c'est l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon lequel la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Et ça, c'est vraiment le cœur du sujet, peut-être encore plus, je pense, pour les nouvelles générations entrantes qui se disent comment on se met au service de ce qu'on appelle, nous, dans le jargon aussi, le passant de la rue Cambon. Le passant de la rue Cambon, c'est le citoyen lambda qui passerait par là sans avoir aucune idée que dans la rue Cambon, où il y a tellement de grandes marques, Chanel et Dior et compagnie. Sauf que juste à côté, on a un peu l'antithèse quand même de tout ça, qui est le gardien du bon usage de l'argent qui est, in fine, de l'argent public.
Voilà les principes cardinaux qui nous régissent et qui font de nous une institution à nul autre pareil, que les Français, et j'en suis très fier, respectent et connaissent. Parce que justement, ils postulent que dans un monde compliqué, où l'angoisse monte sur les déficits et la dette publique, où les doutes s'accroissent sur les institutions, sur la qualité des prévisions, eh bien, il faut qu'il y ait quelque part une vigie objective. Et nous sommes ce tiers de confiance pour les Français.
Alors ici, c'est un petit espace qui se trouve derrière la grande chambre, assez confidentiel. Là, on trouve ici deux personnes qui prennent un café à un comptoir. On voit des grands rayonnages de livres qui s'élèvent jusqu'au plafond. Il y a quelque chose d'un peu intimiste avec des fauteuils en cuir, une petite table basse. On a vraiment l'impression d'être dans un petit salon.
Nous nous trouvons au cercle Pierre Moineau qui rassemble cette collection d'ouvrages qui sont les œuvres de l'esprit des magistrats. Et Pierre Moineau, qui a donné son nom au fond, est un ancien procureur de la cour, donc magistrat et aussi académicien. Et ce fond, en fait, célèbre l'œuvre intellectuelle des magistrats dans la société.
Là, si on pioche dans les rayonnages, on peut trouver...
Oui, on peut trouver à la fois de la poésie, on a même des ouvrages sur la pêche, on a retrouvé un recueil en alexandrin, l'art poétique du référendaire, donc qui est de M. Despréau, qui est un magistrat à la Cour des comptes et qui s'est inspiré de l'art poétique de Boileau pour le pasticher. « C'est en vain qu'à la cour, un jeune téméraire aspire un jour à devenir référendaire. S'il ne sent pas du ciel le merveilleux pouvoir, si son astre en naissant ne lui donne pas pour voir l'œil investigateur qui s'est trouvé de suite dans le dossier poudreux, l'objet de sa poursuite. »
Alors quand on s'approche, on a par exemple l'arc-en-ciel, le chevalier Beautemps, les écrits au concours administratif, lettre à une honnête femme de 1885. Pourquoi Mitterrand, sécurité intérieure, les socialistes aux portes du pouvoir. Merci à Pierre Morillo, Pierre Moscovici, Véronique Amaillon, Adeline Baldacchino, Jacques Rigaudia, Stéphanie Damaret, Thomas Lépinet et Bernard de Froment. On peut encore trouver Genèse et croissance des télécommunications, lecture Lison Pinet, la guerre à coups d'épingle, le retour du capital. Merci à Julie Poissier et Julianne Tritz pour leur accueil à la Cour des comptes et à Mathieu Fèvre-Issaly pour ses conseils avisés, le professeur d'amour. Prise de son, Michael Simon et Nicolas Depagraf et Soif de justice. Mixage, Manu Couturier. Chargé de programme, Marie-Vonne Abolivier et Anaï Morales. Coordination, Emmanuel Laurentin. C'était Les Gardiens du Droit, quatrième épisode, Juger la dépense publique, la Cour des comptes. Une série documentaire de Cyril Marchand, réalisée par Véronique Samouiloff.